les jardinières.
Soyez les bienvenus chez les jardinières et vous verrez ce matin, nous allons mettre de la couleur dans votre journée. Bonjour Brian.
Mais bonjour Mylène.
Ce matin, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Élodie Chasseau et c'est une première pour vous. Bienvenue. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Élodie Chasseau, vous êtes fleuriste, horticultrice et propriétaire du Jardin des Fées, la boutique florale à Fleurier. Merci d'être notre invitée ce matin.
Et installez-vous confortablement, les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Le mois de février est bien entamé, malgré quelques rayons de soleil. On apprécie quand même la douceur de nos intérieurs. Et en intérieur, on a souvent des plantes, ben, parfois on n'y pense pas, mais elles ont besoin de soins. Élodie, à quoi faut-il faire attention avec nos plantes d'intérieur pendant cette saison hivernale ?
Alors malheureusement, pendant l'hiver, on a souvent les chauffages et puis du coup, ça a un impact quand même assez fort sur nos plantes. On peut aussi facilement remarquer qu'elles ont les pointes de feuilles qui brunissent. Ça vient souvent d'un manque d'humidité de l'air. Donc ce que je préconise, c'est de faire une vaporisation en plus de notre arrosage sur les plantes pour vraiment qu'elles puissent avoir cette humidité de l'air qui est compensée. Si on a des plantes qui sont posées au sol ou comme ça, c'est bien de les surélever pour qu'elles aient justement pas ce chauffage sur les racines qui est pas très bon. Si elles sont sur un chauffage aussi, peut-être éviter de les mettre ou de les enlever à ce moment-là. On peut aussi les rapprocher d'une fenêtre parce que souvent la luminosité est moins dense en fait en hiver et du coup les rapprocher d'une fenêtre compenserait ce manque de luminosité qu'elles peuvent aussi avoir.
Merci Élodie, vous êtes notre invitée jusqu'à 8h. Et puis en seconde partie d'émission, vous répondrez aussi aux questions de nos auditeurs. Appelez-nous d'ailleurs au 0900 70 20 20 pour poser vos questions en direct à Élodie. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez « jardin » un espace suivi de votre question et de votre nom et puis vous nous l'envoyez au 939.
Et ce matin, les fleurs seront à l'honneur et plus précisément celles qu'on aime offrir ou recevoir, hein, je lance un appel, pour la Saint-Valentin.
7h, 8h, les jardinières.
Dans moins d'une semaine, nous fêterons les amoureux. La Saint-Valentin approche et qui dit Saint-Valentin dit fleurs. Élodie Chasseau, vous êtes fleuriste et pour vous, cette période est l'une des plus chargées de l'année. Quelles sont les fleurs les plus populaires pendant cette période ?
Bien évidemment, toujours les roses.
Toujours les rouges.
Les rouges aussi, beaucoup. Mais on vend aussi facilement aussi d'autres couleurs de rose. C'est vrai que la rose rouge, c'est celle qui est plus facile à vendre pour la Saint-Valentin.
Mais alors pourquoi est-ce que c'est une fleur si emblématique de l'amour selon vous ?
Parce qu'elle représente l'amour, la passion, c'est vraiment la signification de cette rose rouge en fait.
Alors oui, il y a la rose rouge, mais en tant que fleuriste, vous avez d'autres fleurs à proposer, heureusement. Comment est-ce que vous choisissez les fleurs que vous proposez à vos clients pour la Saint-Valentin ?
Alors, on compose toujours beaucoup de bouquets déjà préfaits. Donc là, il nous faut aussi certaines fleurs pour pouvoir les faire. On fait aussi des arrangements. Donc c'est des fleurs qui sont piquées dans un pot. Et puis là, on a aussi certaines fleurs qui sont plus adéquates pour faire ça. Donc on choisit vraiment des fleurs qu'on puisse assembler ensemble au niveau des couleurs, au niveau des formes de fleurs aussi. On essaye de prendre des fleurs de saison qui sont aussi beaucoup maintenant tout ce qui est des fleurs de printemps. Donc tulipes, renoncules, anémones, c'est des fleurs qu'on apprécie aussi beaucoup.
Vous avez dit un tulipe, renoncule, anémone. Il y en a d'autres moins connus qui sont dans ces arrangements floraux ?
Bien sûr, on peut aussi avoir des jacinthes si on continue dans les fleurs de printemps. Sinon, on a aussi des lésianthus qu'on confond aussi beaucoup avec les roses, donc qui sont aussi des petites fleurs qui ressemblent aux roses, oui, effectivement, sur une branche. Et on peut en avoir en fait vraiment beaucoup. C'est vrai que le choix est large.
Et puis, si imaginons cette année, on laissait totalement la rose rouge de côté. Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui veulent offrir des fleurs, mais qui cherchent à sortir un peu des sentiers battus ?
Bien sûr, on peut soit offrir autre chose que des roses, donc des fleurs d'un printemps ou d'autres fleurs. On peut aussi offrir des plantes. On a toujours un très joli choix de plantes, soit fleuries, soit plantes vertes. On peut aussi avoir des petites décos avec des bougies ou des décos de portes. Donc vraiment des choses vraiment très différentes. Donc on pourrait vraiment offrir plein de choses différentes.
Alors la Saint-Valentin, c'est vraiment la fête de l'amour. Hein. Souvent, c'est pour les couples. Mais on peut aussi offrir à des gens qu'on aime, par exemple pour la famille ou une amitié. Là, peut-être on invite la rose rouge, on offre autre chose.
Oui, voilà. Alors, j'ai sorti plusieurs significations de rose. Donc, on peut avoir la rose orange, qui est vraiment pour l'amitié. On peut avoir la rose blanche, qui est pour l'élégance, la pureté et le respect. On peut avoir la rose rose, qui est plutôt pour la tendresse. Et puis, si on le souhaite, on peut aussi offrir une rose jaune, qui est pour l'amitié et la partage de la joie.
7h, 8h. Les jardinières.
Dans moins d'une semaine, nous fêterons l'amour. Le symbole de la Saint-Valentin, c'est bien sûr la rose rouge, mais aussi beaucoup d'autres fleurs. Vous nous le disiez à l'instant, Elodie. Et on parle ce matin justement de fleurs avec vous. Quand on reçoit un bouquet, Elodie, un bouquet de fleurs, on le met dans un vase. Hein, c'est la suite logique. Mais est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour que les fleurs restent belles le plus longtemps possible ?
Avec plaisir. Alors, ce qui est important, c'est de leur mettre surtout un vase, oui, mais un grand vase. La plupart du temps, on met pas forcément un vase assez grand et c'est vrai que ça aide beaucoup aux fleurs à rester plus belles, en fait, si elles ont suffisamment d'eau. Donc ça, c'est important. Il leur faut en tout cas la moitié de la tige dans l'eau pour avoir un peu une dimension. Et puis, c'est important qu'elles aient plutôt de l'eau froide. C'est là où elles se gardent le mieux. Ce qui est bien, c'est de changer régulièrement l'eau, tous les jours, voire tous les deux jours. On peut aussi les recouper. Ce qu'il faut faire attention si on les recoupe, c'est vraiment avec un couteau. Pas de sécateur, pas de ciseaux. Parce que ça écrase la tige et ça leur permet plus de boire, en fait. Donc vraiment avec un couteau. Et ce qui est important, c'est de faire un long biseau. Si on a de la peine à le faire, je préfère dire aux gens de ne pas couper les tiges et puis de les laisser comme elles sont, que de couper, mais de ne pas arriver à le faire correctement. Ce qui n'est pas forcément évident, surtout sur certaines tiges. Après, c'est important d'éviter le soleil, parce que les fleurs coupées n'aiment pas le soleil. Ça les fait s'ouvrir beaucoup plus vite, donc ce n'est pas forcément l'idéal.
Et puis, souvent, quand on reçoit un bouquet de fleurs, il y a des petits sachets, vous savez, qu'on met. Alors, déjà, qu'est-ce que ça contient ? Et puis si on change l'eau, ben, il n'y aura plus.
Voilà, donc c'est des nutriments. On peut le mettre. C'est vrai que ça aide les fleurs à absorber le jour où on le met. Mais après, si on ne le met pas et on change l'eau tous les jours, c'est encore meilleur. En fait, ça aide aussi à garder l'eau un peu plus propre. Mais si on change l'eau régulièrement, c'est encore plus bénéfique.
Et puis malheureusement, il y aura un moment où il faudra se débarrasser du bouquet. On le met simplement au compost.
On peut simplement le mettre au compost ou on peut aussi essayer de le garder. Il y a différentes manières de le sécher ou de pouvoir récupérer les fleurs. Mais oui, on peut simplement le détacher et le mettre au compost. Faire attention si d'un coup il y a eu des fils de fer à l'intérieur, peut-être les enlever.
Et puis les faire sécher, vous avez quelques conseils pour les personnes qui seraient intéressées à le faire ?
Oui, alors on peut simplement l'enlever de l'eau, essuyer un peu les tiges ou rabattre un petit peu les tiges qui ont été dans l'eau, le suspendre à l'envers et puis attendre qu'il sèche.
Et vous nous avez parlé là, hors antenne, des roses lyophilisées, c'est comme ça que vous l'avez dit, on les trempe dans l'azote pour les conserver. On peut faire ça à la maison ?
Non, à la maison pas. Mais c'est quelque chose qu'on peut facilement avoir chez un fleuriste, soit sur une tige ou qu'on décore la tige aussi, ou simplement le bouton de rose qu'on fait après une décoration autour.
Et puis comme ça, on peut garder la rose le plus longtemps possible. On a perdu Brian. On parle donc des fleurs coupées, mais si vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quelques plantes qu'on pouvait aussi offrir à la Saint-Valentin, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de fleurs coupées. Est-ce qu'il y a des plantes plus adaptées à la Saint-Valentin que d'autres ? Par exemple, on évitera le ficus ?
Oui, alors après, on a aussi beaucoup de plantes fleuries, comme les orchidées. Alors, c'est très traditionnel, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir de belles variétés différentes que celles qu'on voit de tous les jours. On peut avoir d'autres plantes fleuries, comme un tillandsia. Enfin, on a vraiment plein de choses vraiment fleuries. Ou maintenant, c'est aussi beaucoup la mode d'avoir des belles plantes vertes, mais qui ont un feuillage très coloré ou des nervures qui ressortent ou un feuillage duveteux. Donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir autre chose.
Et puis, si on va plus loin dans l'originalité, on sait qu'il existe des fleurs comestibles. C'est possible d'offrir un bouquet qui se mange ?
Alors, les fleurs comestibles, oui, c'est possible de faire un bouquet avec, ou alors changer peut-être un petit peu d'idée et de faire un bouquet, pourquoi pas, avec des légumes ou des fruits. C'est aussi quelque chose qui est faisable. Ou on peut aussi tout simplement intégrer des choses au bouquet, comme du chocolat ou des biscuits. C'est aussi quelque chose qu'on peut totalement faire. Prendre des choses comestibles qu'on intègre dans un bouquet et puis qu'on puisse en profiter des deux en même temps.
Et si on revient particulièrement sur ces fleurs comestibles, vous pouvez nous en citer deux, trois?
Oui, alors souvent, c'est des petites fleurs, surtout à l'heure actuelle, comme les pensées. Donc ça, c'est vraiment des toutes petites fleurs. On a aussi la violette, on a de la bourrache. Après, c'est vrai que c'est des fleurs qui sont vraiment plutôt petites. Et donc, petites au niveau de la grandeur de la fleur et petites au niveau de la tige. Donc, ça fait des petits bouquets.
Les jardinières.
Soyez les bienvenus chez Les Jardinières si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Élodie Chasseau, fleuriste, horticultrice et propriétaire du Jardin des Fées, boutique florale à Fleurier. Dans moins d'une semaine, c'est la Saint-Valentin et du coup, on parle de fleurs. On vous partage les bons conseils d'Élodie pour garder vos bouquets en forme. Élodie, bien sûr, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs.
Et pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 et vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site et joindre une photo à votre question. Alors juste nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous envoyez ce message au 939.
Alors Élodie, vous êtes fleuriste, vous allez vendre beaucoup, beaucoup de roses rouges la semaine prochaine. Vous en tant que fleuriste, si vous deviez choisir une fleur ou un bouquet pour la Saint-Valentin. Déjà, est-ce qu'il y aurait des roses rouges dedans?
Non.
Non. Alors, de quoi serait-il composé ce bouquet?
Non, moi, je partirais plutôt sur un bouquet printanier qui est justement plutôt de saison, tandis que les roses, on peut quand même en avoir toute l'année. Donc, je partirais vraiment sur des fleurs de saison, donc plutôt un bouquet composé de tulipes, de renoncules. J'adore ces fleurs. C'est vraiment des fleurs qui s'ouvrent énormément. Pourquoi pas de quelques lysianthus dont on avait parlé juste avant, et quelques anémones, donc vraiment plutôt quelque chose de printanier.
Et puis, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui hésitent à offrir des fleurs?
Ben justement, ça serait l'occasion de pouvoir faire quelque chose de vraiment très particulier à la personne, en fait, parce qu'on a vraiment un large choix. Et puis, on peut vraiment faire quelque chose qui est propre à chacun et qui pourrait être apprécié par la personne, soit par les couleurs, soit par les fleurs qu'elle pourrait apprécier. Et je pense le fait que ça soit justement peut-être quelque chose d'éphémère, comme un bouquet, c'est quelque chose qu'on prend vraiment l'occasion de chaque matin de regarder l'évolution de son bouquet, de voir comment les fleurs s'ouvrent et s'épanouissent. Et pour ceux qui préfèrent plutôt quelque chose qui se garde, ben, on peut aussi totalement offrir justement des plantes où là, ils vont pouvoir en profiter sur plusieurs mois, voire années.
Et puis Élodie, avant de clore le chapitre des fleurs de la Saint-Valentin, peut-être rappeler dans les grandes lignes les conseils pour garder un bouquet en forme longtemps.
Donc de le remettre rapidement dans l'eau, une grande quantité d'eau, donc vraiment la moitié de la tige dans l'eau, de les recouper les tiges mais uniquement avec un couteau et éviter tout ce qui est le soleil, plutôt les mettre au frais.
Quand vous dites, quand vous dites mettre au frais, ma grand-mère, par exemple, je me rappelle, elle mettait son bouquet à l'extérieur. Ça, c'est une bonne idée.
Alors, à l'heure actuelle, il fait un peu froid pour les mettre dehors. Il faudra un minimum de 5 à 6 degrés pour les fleurs. Donc, vu que là, on a des jolies températures en ce moment, mais il faut quand même penser qu'ils gèlent toujours la nuit. Donc, c'est un peu risqué de les mettre dehors.
7h, 8h, les jardinières.
7h43 chez les jardinières, nous sommes en compagnie d'Élodie Chasseau, fleuriste horticultrice du côté du Val de Travers. On va répondre aux questions que vous nous avez posées. Peut-être, Brian, rappeler comment faire si quelqu'un là, tout d'un coup, a une question jardinage à nous poser.
Et oui, vous avez toujours ces trois possibilités. La première, c'est par téléphone au 0900 70 20 20. Vous nous appelez et vous aurez la chance de parler en direct avec Élodie. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site internet et joindre une photo à votre question. C'est sous l'onglet émission questions aux jardinières, ou alors nous écrire un SMS Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom. Et puis vous nous l'envoyez au 939.
On va débuter avec cette question de Martine de Delémont qui nous parle de son mûrier. J'ai un mûrier qui chaque année fleurit magnifiquement et ensuite a énormément de fruits. Le problème, un mois et demi avant leur maturité, donc des fruits, les mûres sèchent et les trois quarts de la récolte est perdue. Chaque année, c'est le même scénario malgré un arrosage quotidien. Alors Elodie, est-ce que vous avez quelques conseils à donner à Martine pour pouvoir profiter pleinement de ses fruits ?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que par message comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui pourrait avoir ce mûrier. Des photos, peut-être, ça pourrait nous aider à nous indiquer plutôt la cause. Elle parle qu'elle arrose régulièrement son mûrier. Ça peut être aussi une cause que du fait sa lessive le sol. Et du coup, il n'a peut-être pas assez de nutriments, à savoir si justement elle apporte de la fumure à ses mûriers en conséquence ou pas forcément. Parce que justement, si ses mûriers n'ont pas assez de nutriments, en fait, ils ne vont pas avoir assez de force en fait, pour mûrir. Et c'est peut-être pour ça que du coup, les fruits ne viennent pas en fait, à maturité. C'est une possibilité. Il peut aussi avoir une maladie. C'est aussi probable. C'est vrai que du coup, de comme ça, sans photo, c'est peut-être un petit peu difficile d'avoir la cause exacte de qu'est-ce qui pourrait avoir son mûrier.
Et puis, pour revenir à cette question d'arrosage, c'est quoi la bonne fréquence d'arrosage de ces petits fruitiers ?
Alors, c'est toujours compliqué parce que ça dépend aussi énormément de la météo. C'est vrai qu'on parle maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup de paillage qui aide aussi beaucoup à garder l'humidité. Mais c'est vrai qu'une à deux fois par semaine, c'est bien. Après, ben justement, si on peut apporter un paillage, c'est toujours mieux parce que du coup, on arrose moins en grande quantité. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant au niveau de la quantité d'eau qu'on peut mettre à nos mûriers.
Merci Elodie. On va enchaîner avec cette deuxième question. Quand est-ce que l'on peut planter et semer des pivoines ? Et puis, faut-il acheter des plantes directement ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Merci beaucoup.
Alors, semer des pivoines, c'est possible. Il faut juste penser que les pivoines ont besoin d'un bon cycle, en fait, pour pouvoir arriver à fleur, même au niveau de la plante. Donc, c'est plus facile, à mon avis, d'acheter plutôt une plante que de les semer, si on veut profiter de fleurs assez rapidement. Une pivoine, c'est important pour elle qu'elle puisse bien s'enraciner. En tout cas, une bonne année, il lui faut d'enracinement pour pouvoir avoir des belles fleurs. Si elle n'est pas arrivée à s'enraciner correctement, elle ne va pas fleurir en fait.
Et si on veut faire avec à base de graines, si on veut semer des pivoines, ça serait déjà le moment de le faire ou c'est un peu tôt ?
C'est encore un peu tôt. Il faut attendre que le sol se réchauffe un peu. Et si on veut les planter plutôt en pot qu'en pleine terre, on peut aussi le faire. Ce qui est un peu plus compliqué au niveau de la gestion de la culture, mais ça serait quand même un petit peu plus tard.
Peut-être plus partir sur la multiplication, aller voler un petit bout d'une pivoine chez le voisin, ça c'est plus facile ?
On peut, mais du coup, la même chose, du moment qu'on la déplante pour la replanter, il lui faut dans tous les cas ce moment vraiment d'enracinement. Donc la première année, on risque d'avoir que des feuilles, mais c'est totalement normal, c'est qu'il faut qu'elle puisse s'enraciner pour fleurir l'année d'après.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous avons parlé de fleurs à offrir ou à recevoir à la Saint-Valentin avec Elodie Chassot. On rappelle que tous vos conseils seront à retrouver en podcast en cours de matinée sur notre site. On va rester dans le thème des fleurs pour terminer. En ce moment, on voit en jardinerie beaucoup de petites fleurs qu'on peut se procurer, genre des pensées. Je parle que des pensées, c'est les seules que j'ai reconnues. Si on achète maintenant ces petites fleurs, est-ce qu'on peut les mettre en pleine terre directement ?
Alors, c'est vrai que maintenant, on trouve beaucoup de pensées. Alors, en pleine terre, à voir avec les futurs gelées, que le sol soit quand même faisable pour planter ces pensées. C'est des fleurs qui supportent quand même le gel. Alors, elles seront toutes plates avec le gel, mais dès qu'il refait du soleil comme ça, elles reprennent, elles remontent. Donc ça, c'est quand même des fleurs qui supportent. On peut aussi trouver des primes verts. Alors, juste faire attention parce qu'elles n'aiment pas du tout le gel. Elles vont brûler. Vraiment, le feuillage va devenir tout brun, tout noirci avec le gel, donc plutôt les abriter, pas les mettre à l'intérieur, parce que si on les met à l'intérieur, elles vont vraiment jaunir. Donc, ça serait plutôt de les mettre près d'une façade ou un rebord de fenêtre, où elles seraient quand même à l'abri des gros gels, mais du coup, qu'elles aient quand même pas trop chaud pour qu'elles puissent continuer à fleurir correctement. On trouve aussi tout ce qui est bulbes. Maintenant, jacinthe, des petites narcisses, muscaries. Et ça, la même chose, ça, on peut les prendre dedans, mais du coup, ils vont vite fleurir et vite passer. Sinon, on peut justement les garder à l'extérieur. La même chose, les garder un peu à l'abri du gel pour pas que le feuillage et les bouts de fleurs noircissent. Après, elles supportent quand même relativement bien.
Et puis, pour les planter directement en pleine terre, là, c'est un peu tôt, il fait froid. Souvent, on dit, ouais, il faut les mettre en terre et beaucoup arroser. Là aussi, avec ces températures froides, c'est pareil.
Ouais, en fait, ce qui est hyper important pour replanter n'importe quelle plante, c'est que la plante soit arrosée avant, qu'on la réarrose après. En fait, c'est pour que la terre qui est autour de la plante qu'on est en train de planter fasse vraiment contact avec la motte de la plante. Et c'est pour favoriser qu'elle reprenne bien, en fait, qu'elle puisse faire des racines après. Si on ne fait pas justement ce processus-là, malheureusement, elles n'arrivent pas à faire le contact avec la terre qui est autour. Et puis souvent, elles ne se propagent pas très bien.
Merci beaucoup Élodie pour cette première chez Les Jardinières. On rappelle que vous êtes floriste et horticultrice, propriétaire du Jardin des Fées à Fleurier. On vous souhaite un bon week-end et puis déjà une bonne Saint-Valentin.
Merci.
Et puis on rappelle vite fait, n'offrez pas de roses jaunes parce que ça marque aussi, vous nous l'avez dit,
l'infidélité.
Donc voilà, hein, le message est passé. La semaine prochaine, c'est du côté du jardin botanique de Neuchâtel que nous vous emmènerons, histoire de découvrir ce lieu magnifique, presque en pleine ville. Nous serons en compagnie de Blaise Mühlhauser, le directeur du jardin botanique, ainsi que de Nicolas Roche, le chef jardinier. On entendra aussi Valérie, Katia et Kenny qui font partie de l'équipe des jardiniers. Bref, vous verrez, il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce jardin botanique. Mais tout ça, c'est samedi prochain. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Merci pour votre écoute.
7h, 8h, les jardinières.